au Bercail, le podcast pour vous faire découvrir des solutions concrètes et éthiques afin d'améliorer ton habitat. Je m'appelle Caroline et dans chaque épisode, je donne la parole à un acteur de l'habitat éthique. Comme vous, je me pose pas mal de questions pour rénover ou construire mon futur chez moi. Je vous propose donc de partir en quête des meilleures solutions adaptées à chacun d'entre nous et ça commence dès maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Simon. Salut Simon.
Salut Caroline.
Alors Simon, tu es le seul derrière le micro, mais le projet dont on va parler, vous l'avez fait à deux avec Adèle, ta compagne. Donc votre histoire, elle est vraiment super sympa, puisque vous êtes rencontrés en école de graphisme. Vous viviez à l'époque dans un appartement dans le centre-ville d'Angers. Et puis vous vous êtes fait la réflexion qu'avec un peu plus d'argent par mois, vous pouviez être propriétaire plutôt que locataire.
Exactement.
Et donc, en 2017... vous avez décidé de vous lancer directement dans l'autoconstruction d'une maison conteneur. Donc, il faut souligner que ce projet, vous l'avez entrepris en n'ayant pas forcément un profil professionnel dans le bricolage ou la construction.
Tout à fait.
Et vous avez partagé toute cette expérience et ce cheminement sur votre compte Instagram sous le nom Living in the Steel, qui est très, très cool et que j'invite les auditeurs à aller voir en tout cas.
C'est gentil.
Est-ce que j'ai tout bon jusqu'ici, Simon?
Oui, tu es très bien renseignée, Caroline. On est bon.
Parfait. On est bon. Eh bien, écoute, je te propose de commencer cet épisode directement par notre petit jeu d'une vérité et d'un mensonge sur la thématique des maisons conteneurs. Mmh. Est-ce que tu peux me donner les deux affirmations et puis à moi de trouver la vraie de la fausse?
Eh bien, écoute, les deux affirmations sont donc est-ce que tout le monde peut le faire?
Oui.
Et est-ce que c'est plus simple à réaliser qu'une maison classique?
Alors, écoute, comme je vais partir du postulat que de ce que tu m'as raconté, en tout cas en dehors de cet épisode, que vous avez commencé de zéro, du coup, pour réaliser cette maison en autoconstruction. Moi, je vais partir du postulat que tout le monde peut le faire, même si, bon, je suppose qu'il faut quand même un petit peu se renseigner en amont, et qu'une maison classique, c'est pas forcément plus simple. Donc voilà, je vais partir sur cette hypothèse-là.
Je pense que tu as tout bon. Je pense que tu as tout bon.
Et ouais, c'est bien, je commence vraiment bien cet épisode.
Tu commences très très fort, t'es malaise. Mais oui, c'était ce que nous disaient pas mal les gens sur Instagram, qu'il fallait être courageux, mais c'est ce qu'on disait, c'est qu'il faut surtout être un peu naïf, et au final, je pense que tout le monde peut le faire facilement. Si on a réussi à le faire, je pense que tout le monde peut le faire, effectivement.
Ouais, et garder ce côté naïf parfois.
Sûrement, ouais. Il faut faire des choses qu'on n'avait pas vraiment imaginées.
Ouais, c'est ça. Ok. Trop bien. Eh ben c'est parfait. Merci, merci pour ces affirmations. Au moins, ça nous permet de mettre directement le pied dans le sujet et pour mettre aussi, pour une meilleure compréhension aussi pour nos éditeurs. C'est peut-être une question toute bête, mais est-ce que tu peux juste nous dire qu'est-ce que c'est une maison conteneur et rapidement pourquoi cette idée de construire avec des conteneurs en fait?
Ok. Qu'est-ce que c'est une maison conteneur? C'est une maison qui est faite. En fait, la structure est faite à partir de conteneurs maritimes. Donc, c'est des conteneurs de... Enfin, je pense que tout le monde voit, mais pour préciser, c'est des conteneurs qui servent pour le transport maritime sur les cargos. Et en fait, ces conteneurs-là, quand ils ont passé une vingtaine d'années en mer, ils sont plus aptes à faire du transport maritime. Et du coup, ils sont revendus ou donnés même. Il y en a beaucoup qui partent en Afrique pour de l'humanitaire. Mais certains sont revendus pour faire typiquement, pas forcément des maisons conteneurs, mais... pour en faire autre chose.
Okay.
Et donc, on se sert de ces conteneurs-là qui sont dits de dernier voyage pour faire notre maison, tout simplement. Donc, c'est des conteneurs qui ont 20 ans, qui ont été... Nous, les nôtres, ils ont été fabriqués en Californie.
OK.
Et voilà, ils sont arrivés à Rabelais après 20 ans de tour du globe. Voilà. Et j'ai oublié la deuxième partie de ta question.
Juste pourquoi partir en fait sur cette idée de conteneur? En fait, c'est assez atypique quand même.
Ouais.
On s'imagine pas toujours directement partir avec ça, donc.
Non. En fait, il y a plusieurs raisons. La première, je dirais que ce qui nous a fait connaître les conteneurs, c'est qu'on voulait ouvrir un bar avec Adèle, du coup, conjointe et puis un ami à l'époque. Mm-hmm. Bar qui n'a jamais vu le jour pour X raisons, mais du coup, on avait déjà toutes les infos sur. Sur les conteneurs et leur structure et la taille que ça faisait. Enfin, on avait déjà beaucoup d'informations. Ça nous semblait plus simple parce que un conteneur, ça tient debout tout seul. Mm-hmm. A priori, il n'y a pas besoin de réfléchir à une structure porteuse, quoi. Et puis, il y avait le côté écologique et économique qui était quand même assez intéressant pour nous. On n'avait pas une enveloppe budgétaire énorme, parce qu'à l'époque, on empruntait avec des petits salaires. Et puis, l'aspect écologique de recycler, du coup, des conteneurs qui sont en fin de vie et qui peuvent, en fait, avoir une deuxième vie derrière sans problème.
OK.
Voilà, je pense avoir fait le tour.
OK. C'est bien comme ça, tu anticipais un peu ma prochaine question, ouais. De savoir un peu les intérêts d'une maison conteneur. Donc, il y a effectivement le fait de réemployer, donc un peu l'aspect aussi écologique.
Ouais.
Économique un petit peu, du coup.
Alors, économique un petit peu, c'était en tout cas valable à l'époque où nous, on l'a fait. Aujourd'hui, je ne saurais pas trop te dire parce qu'on ne s'est pas trop renseigné, mais des échos qu'on a eus, des gens qui nous suivent sur Instagram ou des gens qu'on connaît qui sont concernés un peu par la chose, et même en fait par les médias, le coût du transport maritime a explosé avec le Covid. Et du coup, le prix des containers aussi a explosé a priori. Mmh. On a entendu que le prix avait été multiplié par 2, voire par 3. Ce qui, du coup, économiquement, je pense pas que ce soit encore viable de faire avec des conteneurs. Après, peut-être, parce que tous les autres matériaux ont explosé. Donc, quelque part, peut-être que les conteneurs ont moins augmenté que le reste, mais il faudrait faire les calculs. Ça, c'est une question à laquelle, j'ai pas forcément la réponse.
Ok.
Ouais.
Et est-ce que tu vois d'autres intérêts, en fait, à ce type de maison? Est-ce que, je sais pas, la rapidité peut-être de construction ou quoi que ce soit?
Rapidité, ouais, après l'aspect modulaire, je pense, il y a pas mal de... Je pense que c'est surtout l'aspect modulaire qui est intéressant. Enfin, peut-être pas pour une maison, pas forcément pour nous, parce qu'au final, si on voulait agrandir la maison, ce serait tout aussi compliqué que si on avait une maison en briques, en parpaing ou en bois. Mm-hmm. Et je sais qu'il y a pas mal de... Je sais qu'il y a des cités étudiantes qui se font en conteneurs et où en fait c'est fabriqué, chaque conteneur est aménagé en usine.
Ok.
Et après ils sont assemblés sur le chantier.
Oui, donc en fait tout est déjà prêt.
Voilà, c'est comme du préfabriqué quoi. Et du coup en termes de, j'imagine de coût, ça doit être hyper intéressant et en termes de rapidité d'assemblage derrière aussi parce que tout est pas regroupé au même endroit, ça peut être fait. À plusieurs endroits et après regrouper. Donc je pense que ça, c'est aussi un des intérêts, l'aspect modulaire de la maison conteneur.
Ok.
Donc chaque petite structure est un peu indépendante, quoi.
Ok. Voilà. Et d'une manière aussi un peu générale, est-ce que tu as vu des gros inconvénients en fait à ce type de structure? Je ne sais pas s'il faut de l'entretien, par exemple, ou même au niveau de la durabilité.
Ben, de l'entretien, non. Ah, ben, après, la durabilité, je ne sais pas si on a déjà connaissance de maisons conteneurs qui ont plus de 100 ans, je ne pense pas. Mais en termes de durée de vie, honnêtement, je pourrais pas te répondre parce que je sais pas si même on a le recul, tu vois, est-ce qu'il y a des, enfin, sans parler de maisons conteneurs qui ont plus de 100 ans, mais même des maisons qui ont 20 ans, est-ce qu'il y en a, je sais pas du tout. Donc par rapport à ça, je pourrais pas te dire. Après, on part du principe avec ce qu'on fait des maisons en conteneurs que à partir du moment où ils sont à l'abri de l'humidité, et donc à l'abri de la rouille. Il y a pas de raison que ça dure pas 50 ou 100 ans parce que nous la nôtre toute l'isolation est à l'extérieur, ils sont étanches donc il y a aucune raison que ça pourrisse quelque part.
Ouais. Il y a vraiment cette notion d'étanchéité en fait qui est importante dès le départ.
Oui et puis ça peut-être je m'avance un peu mais il me semble qu'à l'époque dans les recherches qu'on avait faites en fait, l'acier qui est employé pour faire les conteneurs, c'est de l'acier Corten, et c'est un acier un peu particulier. Mmh. Encore une fois, je mets pas ma main à couper là-dessus, il faudrait la vérifier, et peut-être que certains de tes auditeurs sauraient y répondre, mais l'acier Corten se protégerait avec sa propre rouille.
D'accord, oui, c'est peut-être...
En fait, là où il serait attaqué, entre guillemets, parce qu'ils prennent des coups, enfin, nous on les voit, les nôtres sont un peu tout cabossés, et en fait, forcément, ils rouillent parce qu'il n'y a plus la peinture qui est présente dessus. Mais en fait, ça va rarement... a priori, c'est compliqué. C'est plus résistant qu'un acier classique pour que ça traverse, en fait.
OK.
Ouais.
Donc déjà, tu avais une sorte de protection supplémentaire, peut-être par rapport à d'autres types de conteneurs.
De par l'acier qui est un peu... qui est un acier un peu particulier, ouais, a priori.
OK.
Ouais.
Donc, il y a cette histoire, effectivement, d'étanchéité qu'il faut faire attention. Mais est-ce qu'il y a... Enfin, d'isolation, du coup? Donc
ouais, et après, encore, tu sais, on est en train de... je te parle de ça, mais en fait, il me vient en même temps un exemple d'une maison conteneur qui a pas du tout d'isolation. D'ailleurs, elle est dans... Enfin, on en reparlera tout à l'heure parce que tu me demandais les ressources un peu plus tard dans le podcast, mais d'une maison qui est où les conteneurs sont bruts et totalement à la merci des éléments. Et en fait, a priori, cette maison, elle est quand même faite pour durer. Donc, peut-être que je viens de te dire une grosse bêtise. En fait. Mais non, non, le conteneur, c'est costaud en soi. Ça a fait 20 ans en mer, enfin, dans des conditions, je pense, un peu compliquées. Donc, tout ça pour dire que je pense pas que ce soit plus fragile qu'une maison classique, en tout cas.
Ok.
Ouais.
Ok, ok. Et tu vois pas forcément, du coup, pour revenir sur l'aspect plus inconvénient, pour dire d'être informé ouais. sur ce genre de structure, est-ce que t'as vu d'autres choses?
Non, honnêtement, non. Après, peut-être un des inconvénients par rapport à une maison plus classique, ou en tout cas, par exemple, par rapport à une maison en pierre, on va dire, c'est l'inertie. On dit qu'une maison en pierre, enfin, je t'apprends rien, qu'en été, c'est hyper confortable parce que c'est frais.
Ouais.
Parce que l'inertie sur une maison en pierre, elle est énorme. Et à contrario, une maison conteneur, étant donné que la cloison en elle-même, elle fait 2,5 mm, sans parler d'isolation évidemment, mais la cloison du conteneur, c'est 2,5 mm, forcément, il n'y a pas la même inertie. Donc c'est sûr, okay. c'est peut-être un des inconvénients d'une maison conteneur par rapport à une maison classique.
Ok.
Voilà.
Et j'ai une question, moi c'est plus à titre personnel, je me posais la question, mmh. est-ce que le fait que, bah, du coup, on est sur une largeur fixe, ouais. est-ce que ça peut être un problème aussi au niveau des dimensionnements quand on a envie de créer des espaces à l'intérieur? Le fait que la largeur, elle est assez étroite.
Ouais, c'est sûr que c'est une contrainte et c'est pas tellement la largeur du conteneur en soi qui était une contrainte, c'est surtout que si tu veux, par exemple, je vais prendre un exemple, si tu veux une maison avec 3 chambres et qu'en fait, tu te dis, je ferais bien une chambre en plus, si tu veux le faire en conteneur, c'est direct 28 mètres carrés. Il y a pas de, enfin, il y a différentes tailles de conteneurs, mais a priori, si tu veux agrandir, tu t'agrandis forcément avec une superficie donnée précise qui est incompressible, tu vois.
Oui. Tu rajoutes forcément un certain nombre de mètres carrés.
Voilà. La largeur en soi, c'est pas forcément un souci parce que tu peux, nous, on a ouvert notre pièce de vie, c'est 4 conteneurs qui sont complètement ouverts quasiment. Donc, la largeur, c'est pas tellement un souci, mais c'est surtout que si tu veux agrandir ou réduire, bah, tu réduis forcément, de 28 mètres carrés ou de 14 si tu prends des plus petits. Mais voilà, c'est peut-être plutôt ça la contrainte.
Ok.
Mais bon, on dit que la contrainte est créative. Donc quelque part, c'est pas un souci.
C'est joliment dit. C'est super joli.
Ouais, ça nous a pas tellement posé de problème, nous. Après, peut-être que ça peut en poser à d'autres, mais nous, ça a été.
Ok. Ça marche. Tu sais que je vais te piquer cette phrase, hein, la contrainte est créative.
Alors, faut rendre à César ce qui appartient à César. C'était une prof de d'art plastique qui nous avait appris cette jolie, voilà, cette phrase. Chantal, si tu nous entends, voilà.
Voilà, Chantal, je vous citerai. trop intéressant. Ok. Eh ben, écoute, j'aimerais bien qu'on se focus un peu peut-être sur la partie plutôt du coup autoconstruction, tout l'investissement que personnel et que vous avez mis aussi là-dedans.
Ouais, allons-y.
En fait, j'aimerais savoir aussi quel a été justement cet investissement dans l'autoconstruction d'une maison conteneur en termes de temps passé, en termes de technicité, formation. Comment ça s'est passé en fait dans votre expérience, quoi?
Alors nous, si on reprend chronologique, tu le disais en introduction, mais du coup, le projet, il a réellement commencé en 2017. On a mis à peu près un an à étudier le projet. On va pas rentrer tout en détail, mais en gros de trouver les financements, trouver les conteneurs, trouver ce qu'on pouvait faire nous-mêmes, ce qu'on pouvait pas faire nous-mêmes, enfin voilà, mettre le projet sur pied, on va dire. Et les conteneurs, ils sont arrivés en décembre 2018. À partir de là, nous on a mis 2 ans à plein temps quasiment. Sur la réalisation du chantier pour aménager en du coup de décembre 2020.
Ok.
Donc ça c'est pour la temporalité et puis depuis on y est encore un peu tout le temps. Enfin en gros on peut compter qu'on a mis encore à peu près une année en plus pour la finir réellement. Ça c'est en termes de temps. Après en termes de formation comme tu le disais aussi en introduction, nous on avait 0 base. Enfin, moi, je savais tenir une visseuse, mais je m'étais jamais servi d'une meuleuse, par exemple. un peu primordial pour une maison conteneur. Et on a appris, on a appris sur le tas, comme on dit, hein. Donc, merci YouTube.
Est-ce que okay. c'est...
Merci YouTube, merci les bouquins. Et puis, évidemment, les conseils d'artisans qu'on connaissait ou qu'on a connus de par le chantier aussi.
Vous avez fait cette démarche de d'aller contacter des artisans pour leur demander des conseils ou ce genre de choses ou
en fait
ou
on
c'était
a...
plus des connaissances.
C'était plutôt des connaissances, ouais. C'était plutôt des connaissances. Et après, on a quand même fait... Enfin, il faut aussi être honnête, on n'a pas tout fait nous-mêmes. Il y a des choses qu'on a fait faire, notamment les fondations de la maison.
Ouais.
Parce que ça demande des outils... Enfin, une pelleteuse, on n'est pas de pelleteuse, tu vois. Donc, voilà.
Ouais, à un moment donné, il faut savoir déléguer.
Voilà, exactement. Et pour la partie électricité, plomberie, en fait, on a fait intervenir des artisans, mais qu'on a aidé.
OK.
Bon, on a fait ensemble, même si, évidemment, les artisans en ont fait plus que nous, mais... On était là pour les, on a fait les tâcherons quoi sur le sur la partie eau électricité et tout ça pour dire quoi je sais plus.
Puis dans un sens ça vous a aussi formé en fait de le faire.
Et voilà c'est ça ouais et c'est comme ça qu'on s'est formé et voilà bon après c'est ce qu'on dit souvent c'est que c'est pas parce que t'as fait une chose une fois que t'es bon donc ça suffit pas pour être totalement compétent dans tout surtout qu'on a abordé quand même quasiment tous les aspects de la construction d'une maison. Mmh. Et que chaque métier a ses particularités, chaque corps de métier a ses particularités et ses difficultés. Donc, ce serait totalement prétentieux de dire qu'on est compétent dans tout. C'est absolument pas le cas. Mais on a un peu appris de tout, quoi. Enfin, sur tous les
corps de métier.
Ouais.
Ok. Trop bien. Où est-ce que vous avez trouvé les conteneurs? Est-ce que c'est facile à trouver? Est-ce qu'il y a différents modèles?
C'est assez facile à trouver. Nous, le premier contact qu'on avait eu, on l'avait trouvé complètement par hasard sur le port de Brest, il me semble. Mm-hmm. On se baladait, on était parti en week-end à Brest et on se baladait sur le port et il y avait un petit flocage sur un des conteneurs du nom de l'entreprise qu'on pouvait contacter pour acheter des conteneurs en direct. Donc c'était un gars au téléphone. Enfin, concrètement, on peut acheter un conteneur comme on achète une paire de chaussures ou une bagnole. Hein. C'est il y a des sites internet, il y a des commerciaux, enfin voilà, c'est un vrai business accessible à tout le monde quoi.
OK.
Et puis voilà, ouais sur internet ou en direct dans les ports. Nous les nôtres, ils viennent de donc je disais ils ont été fabriqués en Californie mais on les a achetés, ils venaient du port du Havre.
OK.
Voilà.
Ouais, effectivement, c'est peut-être plus simple si on veut aller les voir ou choses comme ça de au niveau des modèles peut-être. Alors, est-ce qu'il y a différents modèles ?
Il y a différents modèles, ouais, exactement, ouais. Il y a différents modèles. Après les plus courants, c'est ceux qu'on a nous du coup. C'est des 40 pièces, c'est taille internationale. Donc c'est 40 pièces, ça fait 12 mètres de long.
OK.
À peu près 2 mètres 40 de large. Mais sinon, ceux qui sont aussi pas mal courants, c'est la moitié de ça, c'est des 20 pieds, donc ça fait 6 mètres.
OK.
Et après c'est standardisé. Après t'as différentes hauteurs, donc t'as les iCube. Donc iCube, c'est ils sont plus hauts. Nous c'est ce qu'on a pris parce que ça permettait de garder une bonne hauteur sous plafond. Et en général pour les maisons conteneurs, on conseille de prendre des iCube parce que ça fait 2,80 m de hauteur sous plafond entre guillemets, alors que les classiques ils font 2,50 m. Donc s'il y a tous les réseaux à passer d'électricité, d'isolation et tout, vaut mieux se garder ces 30 cm là supplémentaires. Et après, je sais qu'il y a un tas d'autres types de conteneurs, mais pour des maisons qui sont peut-être moins intéressants. Je sais qu'il y a des conteneurs bennes, il y a des conteneurs citernes, mais bon, c'est pour une maison, ça a moins d'intérêt, quoi.
Ok.
Ouais.
Je m'étais dit, j'avais une question. On en a parlé tout à l'heure, donc sur l'aspect écologique et réemploi, en fait, l'intérêt d'utiliser en fait des conteneurs aussi pour faire sa maison. En faisant des petites recherches, j'ai vu qu'on pouvait acheter aussi du neuf, des conteneurs neufs. Est-ce que pour vous en tout cas c'était une éventualité ou est-ce que vous vous êtes dit en fait non l'intérêt c'est de partir sur du réemploi mais est-ce qu'il n'y a pas eu cette crainte entre guillemets que entre un neuf et un qui a vécu peut-être 20 ans sur des bateaux et voilà au niveau de la technicité quoi.
Ouais bah alors effectivement nous la question elle s'est jamais posée dans la mesure où ben du coup l'aspect écologique de prendre un conteneur neuf pour faire une maison il est... Enfin, du coup, c'est plus du tout le cas. C'est plus du tout écologique.
Oui,
voilà. Et puis, en termes de tarifs, du coup, c'est des prix exorbitants. Enfin, c'était, à l'époque, je sais plus exactement, mais nous, on les a payés les conteneurs. Enfin, on en reparlera peut-être après, mais on les a payés 1 500 € pièce.
Okay.
Et je crois qu'à l'époque, un neuf, c'était 6 000 €.
Ah oui, donc,
en termes
déjà.
De coût, sachant que nous, on en a 6, ça faisait exploser la facture, tu vois bien. Donc, c'était même pas envisageable. Donc d'un point de vue financier et écologique et pour ce qui est des conteneurs dernier voyage si la question c'était par rapport à un conteneur neuf qui serait en bon état et pas du tout abîmé c'est sûr c'est plus simple à réaliser avec des matériaux qui sont en bon état à la base Maintenant, les conteneurs de dernier voyage, tu peux les choisir, enfin, c'est même fortement conseillé, de les... En fait, il y a des... Comment dire, ils répondent à des... Tu peux les choisir avec différents niveaux de... Comment dire, je trouve pas mes mots, mais en gros, ils peuvent être dans plus ou moins bon état. Même s'ils ont 20 ans, tu peux les choisir étanches, par exemple. C'est quand même plutôt recommandé.
Oui.
Même si au final, c'est pas très compliqué à réparer, mais bon, dans l'idée, ça t'évite du travail s'il est étanche. Tu peux aussi choisir si... Tu peux avoir la garantie qu'il n'a pas transporté de produits chimiques.
Ok.
Donc voilà, y a tout un tas de, critères à l'achat qu'il faut vérifier pour avoir, même si c'est des vieux qui ont 20 ans et qui ont parcouru les océans du monde, t'arrives à avoir des trucs qui sont quand même en relativement bon état.
Est-ce que t'avais d'autres critères à partager aussi auxquels il faut faire attention? Donc, effectivement, l'étanchéité.
Nous, c'est les seuls qui nous semblaient importants. Après, je t'avouerais que les autres, je me rappelle plus vraiment les autres critères. Mais non, je pense que c'est les deux les plus importants. Déjà, qu'ils soient étanches et effectivement qu'ils aient pas transporté de produits chimiques. Parce qu'en fait, le plancher des conteneurs, c'est du contreplaqué qui est très épais.
Ça absorbe.
Ou bois, ouais. Tout ce qui peut être pas très bon pour la santé. Et après, il y en a qui les enlèvent, les planchers. Nous, on n'a pas fait ce choix-là parce que c'est du bois qui est vissé dans de l'acier. L'acier qui a passé 20 ans en mer, et donc en termes de rouille et de complexité pour enlever le plancher, c'est une misère pas possible. Chapeau à tous ceux qui le font. Mais bon, en même temps, ça permet de d'isoler davantage et puis de justement de repartir sur un sol sain, donc c'est pas idiot non plus. Hein. Mais il faut avoir le courage de le faire.
Mais effectivement, le fait déjà de retirer ce critère de toxique, entre guillemets, avec les éléments chimiques, c'est déjà d'un aspect plus rassurant, quoi.
Bah ouais, bien sûr.
Ok. Juste pour précision, donc effectivement, l'investissement en termes de coûts pour un conteneur, donc vous les avez payés 1 500 avec transport ou sans transport?
Non, 1 500 euros juste le conteneur, et le transport, fallait compter 500 euros par conteneur. En fait, les conteneurs qu'on a choisis, nous, c'est des 12 mètres 40 pieds, donc c'est un semi-remorque, en fait.
Ok.
Donc, si tu fais venir ton conteneur, il faut faire venir un semi-remorque. Donc, c'était 500 euros par conteneur en plus. Donc, en gros, les conteneurs, ils nous ont coûté 2000 euros pièce avec le transport. Et en plus de ça, il fallait compter le grutage.
Oui.
Donc, ça se fait très vite. Dans la matinée, c'était fait. Le grutage, c'était, je crois qu'on en a eu pour 700 euros, je crois, quelque chose comme ça, pour la matinée. Et après, il faut quand même prévoir, pour ceux qui prévoient de le faire, que les conteneurs, s'il faut passer tous les réseaux d'évacuation et d'arrivée d'eau et d'électricité et tout ça, donc il faut percer les planchers avant de poser le conteneur sur place.
Ce qui paraît en fait logique, mais c'est vrai qu'il faut y penser.
Il faut y penser parce que du coup, le conteneur, il arrive, donc le grutier, il le prend sur le camion. Puis toi, tu vas avec ta petite meuleuse découper ton trou que t'as pris la côte avant où il fallait percer. Et après, tu mets ça sur ton... Ben nous, en l'occurrence, c'était une dalle sur un vide sanitaire. Donc ça aussi, il faut l'anticiper. Mais du coup, ça rajoute du temps au grutage. Parce que du coup, le conteneur, il est pendant un quart d'heure, 20 minutes en l'air avant d'être posé.
Ouais, le temps de couper. C'est toi qui as fait les découpes ou est-ce que...
Ouais, on l'a fait ensemble. Enfin, on avait fait venir plein de copains parce qu'on savait pas trop comment ça allait se passer. On voulait assurer le coup. Mais au final, deux personnes ne suffisent largement. Mais oui, c'est nous qui l'avions fait, ouais. D'ailleurs, on avait la meuleuse qui avait cramé au premier conteneur. Heureusement, on avait prévu deux, mais faut prévoir du bon matos. S'il y a un conseil primordial, c'est qu'il faut prévoir du bon matos.
Ouais. Non, ça devait être une expérience assez atypique de se retrouver en dessous d'un conteneur avec une grue à côté et à percer.
C'était assez stressant. Bon, c'est costaud, mais non, c'était surtout le stress. On avait demandé aux transporteurs de faire venir les conteneurs à une heure d'intervalle pour justement prendre le temps de les découper propres, voilà. Et en fait, la veille, il y en avait déjà trois dans la rue qui étaient arrivés. Donc, à Rambler-sur-Layon, six semi-remorques. Ça a foutu un peu le bazar.
J'imagine. Et encore, ça va, c'est la campagne, mais...
Ah bah oui, en ville, ça aurait été encore pire, c'est sûr. Mais...
Et je pense à un truc, c'est vrai que du coup, bah, ça prend quand même de l'espace. Enfin, il faut quand même pouvoir anticiper de prévoir un grutier. Enfin, je veux dire, là, vous êtes à la campagne. Enfin, on n'a peut-être pas, je ne sais plus si on l'a précisé, mais vous êtes quand même dans un espace assez ouvert.
Ouais.
C'est sûr que c'est si un des auditeurs a envie de faire aussi ce genre de projet, il faut quand même qu'il puisse avoir effectivement de l'espace pour pouvoir prévoir toute la manutention qui va derrière.
Ouais, tout à fait. Il faut la grue. Après, c'est pas des très grosses grues, mais c'est un camion grue. Mais bon, ça prend quand même effectivement de la place. Ouais. Déjà, de transporter, c'est une remorque de camion. Hein, donc, transporter une remorque de camion, ça fait 12 mètres de long. Oui, il faut un peu de place, ouais, c'est sûr. Je suis pas sûr que c'est jouable en centre-ville.
Ouais. Ou alors, peut-être pas aussi grand. Là, vous en avez 6.
Ouais.
Ça fait, c'est aussi un bel espace, quoi.
Ouais, tout à fait.
J'avais une question d'un point de vue aussi légal et urbanisme. Mmh. Est-ce que, alors, déjà, est-ce que c'était facile de trouver un terrain? Et de deux, est-ce que c'était facile aussi de pouvoir poser une maison conteneur en termes d'urbanisme dans la commune, quoi?
Eh ben, écoute, le terrain, la facilité, tout est relatif. Et nous, on a visité une trentaine, je crois, de terrains.
Ah oui, quand même.
mais parce qu'on avait des critères hyper précis et qu'on était un peu exigeants. Alors après, tu visites et puis tes critères, il y en a qui évacuent, tu vois, parce que le terrain parfait, il n'existe pas. Donc, facile de trouver, oui et non, parce qu'en fait, on en a visité 30, mais au final, celui qu'on a acheté, c'est le premier. On est revenu dessus, sans le savoir, en fait. Il est ressorti avec d'autres photos et on est allé le visiter. À l'époque, on voulait un terrain exposé sud et sud exposé plein nord, donc moi, j'avais dit non. Et j'ai visité sans Adèle, et parce qu'elle était chez sa famille, enfin bref. Et du coup, on est revenu dessus peut-être 2-3 mois après, et je disais à Adèle, bah, laisse tomber, en fait, celui-là, j'ai déjà vu, c'est pas la peine qu'on y aille. Et en fait, elle a vu le terrain en soi, elle a vu la vue qu'il y avait, elle a dit, bah, si, on va prendre celui-là. Donc, on a pris celui-là.
Voilà.
Voilà. Donc, ça nous a pris du temps, mais au final, on s'est un peu mordu la queue, on a racheté le premier qu'on avait visité. Et puis, en termes de facilité d'urbanisme, nous, ça n'a posé absolument aucun problème.
OK.
Bon, je pense qu'on a eu de la chance parce qu'on est dans un petit village, Rabelais, c'est appelé le village d'artistes. On a des mairies qui sont plutôt ouvertes à ce genre de projet. Nous, on avait anticipé la chose avant de déposer le permis. On était allé voir la mairie avec, donc on était allé voir le maire et l'élu à l'urbanisme. Mmh. Leur dire, voilà, nous, on va faire une maison conteneur. Donc on avait fait un super dossier, il devait y avoir 30 pages, tu vois, avec à quoi ça peut ressembler et tout. Et puis au bout d'un quart d'heure, il dit non, mais il y a pas de souci, quoi.
Ah,
on s'était pris la tête à faire un gros dossier. En fait, ça a posé absolument aucun problème. Maintenant, je sais qu'il y a quand même, enfin, on a eu des retours de gens qui voulaient faire et qui ont pas pu faire. En fait, c'est pas tellement la maison conteneur qui pose problème, c'est toujours le même problème, c'est l'aspect extérieur de la maison qui prime.
Mmh.
En fait. En théorie, peut-être que je me gourre, mais a priori, la technique, la structure de la maison, la mairie, quelque part, a pas son regard, enfin, a pas son mot à dire, dans la mesure où, que ce soit, en fait, cette maison, la nôtre, elle pourrait être en bois, à l'extérieur, ça changerait rien du tout. Et par contre, on a eu des retours comme quoi, il y avait certaines mairies qui, par exemple, refusaient les toitures plates, les toits terrasses.
Oui.
Nous, c'est un toit terrasse, la mairie a dit OK. Et c'est une économie monstrueuse parce qu'il n'y a pas de charpente. Et sur une maison classique, une charpente, ça coûte très cher. Du coup, les maisons conteneurs, si t'es obligé de faire une charpente dessus, l'avantage économique, c'est beaucoup moins intéressant. Donc voilà, l'urbanisme, tout dépendra du PLU, du plan local d'urbanisme et de la tolérance du maire et de ses équipes, quoi.
Ok. Et c'était simplement, entre guillemets, un permis de construire qu'il fallait déposer. Il n'y avait pas forcément d'autres démarches.
Non, juste le permis de construire, c'est tout. Ouais. Bah, qu'on avait dû faire valider. Enfin, c'est nous qui avions fait les plans. On avait tout fait. On l'a fait valider par un architecte parce que au-delà de 150 mètres carrés, je crois que c'était. Il faut
une signature.
Ouais, il faut une signature d'un architecte. Donc, on l'avait fait. On avait repassé le dossier, entre guillemets, chez un archi.
Okay.
Après, nous, on avait été quand même embêtés avec le. Donc la mairie avait posé aucun problème, mais nous c'était les bâtiments de France, l'architecte des bâtiments de France.
Ok.
Qui avait émis des réserves, parce qu'en fait on est dans le périmètre d'une maison qui est classée dans le bourg de Rabelais. La maison de la Dîme, c'est une maison à colombage. Et on était dans le périmètre des 500 mètres, et du coup le premier permis avait été retoqué. Donc on avait dû refaire un dossier. Bon, coup de chance, on connaissait l'architecte des bâtiments de France, donc, enfin un des membres de l'équipe. Donc
c'était plus facile.
Voilà, on était allé le voir et puis au final on avait pu arranger les choses. Bon, on a quand même dû faire des modifs. Hein, on n'a pas pu rester sur le projet initial, mais bon, ça s'est fait quoi. Ça s'est fait.
Ok. Ouais. Ok, ok. Mais oui, ça reste sur un permis dit classique de construction.
Ouais, bien sûr, bien sûr.
Et puis. Voilà. Mais
sur le permis de construire, c'est simplement stipulé que c'est une structure métallique, mais c'est pas stipulé que c'est des conteneurs.
Ok. Ouais. D'accord. Ouais, c'est pas forcément d'avoir besoin de la précision.
Non. Du moment que l'aspect final, ce que la mairie ils veulent, a priori, c'est, enfin, bon, je suis pas dans les mairies, mais a priori, ce qu'ils veulent, c'est que c'est ce que l'aspect extérieur corresponde au PLU, quoi. Donc, à partir de là, à l'intérieur, tu fais ce que tu veux, quoi.
Ok. Donc, ok. Et tu choisis le support que tu souhaites.
Bah ouais.
C'est bien, en parlant de support et d'installation, on peut peut-être faire un petit point aussi sur les matériaux. Mmh. Est-ce qu'il y a des matériaux spécifiques à prévoir? Est-ce que, je sais pas, faut prévoir une isolation différente? Comment vous avez construit, en fait, votre maison, et est-ce que vous avez choisi vos matériaux en fonction aussi?
Ouais. Alors, on a effectivement choisi nos matériaux en fonction. Et du coup, ça me fait penser à ce dont on parlait tout à l'heure par rapport à la largeur des conteneurs. C'est qu'on a choisi de faire une isolation extérieure, pour deux raisons, pour gagner de la place à l'intérieur. Et puis, une isolation extérieure, c'est plus efficace qu'une isolation intérieure. D'autant que les conteneurs, c'est de la tôle et que pour le coup, d'un point de vue isolation, c'est absolument nul à chier, pardonne-moi l'expression. Donc effectivement, nous, on a isolé avec de la laine de bois.
OK.
Pour les murs, et on a mis malheureusement un peu de laine de verre pour le plafond, pour les plafonds. Après, en termes de matériaux spécifiques, je dirais pas forcément par rapport à une maison classique, ou en tout cas, je pense que le type de maison qui ressemble le plus aux maisons conteneurs, c'est les maisons de bois, en fait.
Ok.
Parce que en fait, nous, tout autour des conteneurs, on a fait une structure bois, alors c'est pas aussi costaud que sur une maison de bois parce qu'on n'avait pas besoin que ce soit porteur, c'était pas structurel, mais dans laquelle on a mis du coup toute notre isolation et nos menuiseries. Et du coup, d'un point de vue conception, ça ressemble beaucoup à une maison de bois. Enfin, d'extérieur, sur notre page Insta, ça se voit assez bien. Encore une fois, même si c'est pas aussi costaud qu'une maison de bois, on s'en approche, quoi. Mais bon, par rapport à une maison, on a choisi les matériaux en fonction, mais on aurait pu choisir d'autres matériaux. C'était pas, y a pas des matériaux spéciaux maison conteneur, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Ok. Même au niveau des menuiseries, c'est vrai que parfois on se dit, c'est adapté pour des maisons dites classiques. Est-ce que ça s'adapte aussi bien pour ce genre de structure?
Ouais, non, nous, il n'y a pas eu de, non, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On met à peu près ce qu'on veut, ouais.
Ok. Ouais. Et au niveau du choix plus personnel, est-ce qu'il y avait plus une vocation à suivre cette dimension écologique? Est-ce que vous avez pu le faire?
Ouais, c'est ce qu'on voulait. Après, on l'a pas fait autant qu'on aurait voulu, pour deux raisons. D'une, parce qu'on n'avait pas suffisamment les connaissances.
Ok.
En fait, on s'est lancé, on a étudié le projet pendant un an, mais en réalité. On s'est rendu compte un peu après qu'on l'a quand même pas mal survolé, cet aspect-là écologique. Et la deuxième raison, c'était financier. En fait, la majeure partie du temps, quand même, les matériaux écolos sont quand même plus chers que les matériaux classiques. Enfin, tu vois, pas écolo, en tout cas. Et du coup, en fait, on est parti sur une maison qui était un peu trop grande pour notre budget.
Okay.
Parce qu'on voyait les choses en grand. Et du coup, on n'a pas pu faire aussi écolo que ce qu'on voulait, quoi. Donc elle est écolo, oui, sur certains aspects, mais il y a d'autres aspects où on aurait aimé qu'elle le soit davantage. Notamment, okay, ce que je disais à l'instant là sur l'isolation en laine de verre, ça, d'un point de vue écologique, c'est une catastrophe. On a fait des grosses fondations en béton, en parpaing, ça pareil, écologiquement, c'est quand même pas terrible. On a mis du placo plâtre, écologiquement, c'est aussi une catastrophe. Enfin bon, tu vois, il y a plein de choses comme ça qu'on... Oui. Mais en fait, on a mûri le projet. Enfin, comment dire? Donc, la prochaine maison qu'on fera, elle sera bien plus écolo. Et en fait, cette maison nous a permis de
voir les erreurs à ne plus faire.
Voilà, exactement. Mmh. Et qu'est-ce que c'est qu'une vraie maison écolo, quoi? Donc, okay, la nôtre, elle l'est en partie, mais je dirais qu'en réalité, elle l'est Moi, c'est compliqué de sortir des chiffres, mais on va dire qu'elle est à 50% écolo, quoi.
Par sa structure aussi, le fait de réemployer ouais. des... Bah, juste ouais. même le...
Après, on a quand même fait les choses bien, dans le sens où on répond à la RT 2012 et on est classé A partout. Enfin, on est au taquet par rapport à ça, mais de la RT 2012, tu vois, pas de la RT 2020, donc la réglementation thermique. Nous, on était assujettis à celle de 2012.
Donc, vous avez suivi un peu toutes ces directives-là pour, enfin, vous êtes figé là-dessus pour construire la maison,
du coup? Bah, c'était même, je dirais, notre pas notre bible, mais tu vois, notre fil conducteur. Il fallait qu'elle réponde aux normes parce que on savait très bien que ce serait pas notre dernière maison. Mm-hmm. Que c'était un projet, enfin que ça durait qu'un temps dans notre vie, et donc on pensait à revente. Et en fait, dès la conception, on a pensé à la revente. Et du coup, il fallait absolument répondre aux normes. C'était indispensable parce que sinon, une maison qui répond pas à la RT 2012, c'est pas que tu peux pas la vendre, mais c'est quand même très compliqué. Et dans la mesure où en plus c'était de l'autoconstruction, si tu dis à tes acheteurs, bon, elle répond pas aux normes, mais sinon qu'ils l'ont fait, ils vont avoir du mal à te faire confiance. Que par contre, si tu dis, on l'a fait, mais par contre, on répond à toutes les normes, a priori, bon, c'est ça qui a, c'est déjà ça d'acquis, quoi.
Ok. Ouais. Est-ce que, pour petite précision, parce que on parle de tout à l'heure du fait qu'elle soit assez grande, est-ce que tu peux repréciser un peu le nombre de mètres carrés ou la surface, et puis peut-être un peu l'ensemble des pièces qui la composent, quoi, pour qu'on s'imagine un petit peu. Bon, on pourra aussi le visionner sur le compte Living in Steel, mais.
Ben écoute, en tout, du coup, on a fait venir 6 containers de 40 pieds, donc ça nous fait à peu près 160 mètres carrés de maison.
Ok.
On en a 4 au rez-de-chaussée et 2 à l'étage.
D'accord.
Donc au rez-de-chaussée, on a une grande pièce de vie qui fait à peu près 60 mètres carrés, un peu plus, avec cuisine, salon. Là-dedans, je compte l'entrée aussi. Et puis ensuite, au rez-de-chaussée, on a 2 chambres, une salle de bain, une toilette, évidemment. Et puis, on a deux petits espaces, une petite arrière-cuisine et puis un sas qui mène au garage. Le garage qui lui est fait en parpaing. On parlait de l'écologie de cette maison. Au final, le garage en parpaing, c'est raté. Et du coup, à l'étage, on a comme au rez-de-chaussée 2 chambres, une salle de bain et une toilette. Donc ça nous fait en tout 4 chambres et 2 salles de bain.
Ok. Et pour une surface, tu m'as dit
260 mètres carrés.
Ok. Ouais, donc c'est déjà une belle structure, effectivement.
Ouais, ouais. C'est pas immense, mais ça fait déjà une belle maison, ouais.
Mmh. Ouais. Ok, trop bien. Est-ce que tu vois d'autres choses à repréciser sur la partie autoconstruction, maison conteneur, des choses qu'on n'aurait pas évoquées, qui te semblent pertinentes?
Qui me semblent pertinentes, eh ben, je pense qu'il faut savoir s'entourer. Aussi bien de gens compétents techniquement que de gens... qui serait un soutien moral et psychologique. Parce que c'est quand même pas rien. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui se séparent lors d'autoconstruction, des couples qui se séparent. Donc je pense qu'il faut être quand même bien installé dans ton couple et surtout savoir s'entourer, quoi. Et aussi, il y a un truc qui est important, je pense, c'est de réussir à prendre des pauses, tu vois. C'est quand même énorme comme... Enfin, nous, on comparait souvent ça à la création d'une entreprise, en fait, parce que il y a des contraintes budgétaires. Alors, il n'y a pas la même obligation de rentabilité, mais il y a des normes à respecter. Ça prend un temps pas possible. Enfin, voilà. Et je pense qu'il faut savoir s'entourer et prendre le temps pour soi aussi de temps en temps.
Pouvoir couper du chantier, quoi.
Ouais. Parce que tu mets un toit sur ta tête et c'est quand même une grosse, c'est comme une grosse pression, quoi. Psychologiquement. Ouais. Donc savoir s'entourer, je pense que c'est primordial. Ouais.
Ok. Comment vous avez réussi à faire un peu ces soupapes-là avec Adèle, du coup
Je pense que déjà tous les deux, on s'entend bien, a priori. On est quand même très amoureux l'un de l'autre. C'est aussi une philosophie de vie, quoi. Tu vois, si on fait le parallèle avec le travail c'est important, c'est sûr, mais il faut aussi savoir profiter de la vie, quoi. Du coup, je pense qu'on l'a pas mal transposé dans la construction de cette maison, quoi. Parce qu'on n'hésitait pas à, à partir en week-end de temps en temps. Enfin, Adèle, elle est de Bretagne, donc on allait souvent. On n'est pas beaucoup parti en vacances, mais on se permettait des sorties, des petits week-ends en Bretagne ou ailleurs, histoire de couper, de dire bon, là, on sature. Surtout qu'on était. Enfin, Adèle, elle travaillait en plus. Mm. Moi, j'avais plus de temps, mais Adèle, elle travaillait en plus du chantier. Et du coup, pour elle, c'était quand même. Enfin, elle travaillait de nuit, donc elle rentrait à 3-4 heures du mat, enchaîner le chantier à 10 heures, partir à 16 heures au boulot, et tu vois, ainsi de suite tous les jours.
Ouais, c'est un rythme de vie assez, assez dense, quoi.
C'était un peu hardcore, donc on a même vécu un peu en caravane à une époque, donc bon, tout ça fait que. En fait, on a très bien vécu le confinement, parce que ça nous a obligés à rien faire pendant 2 mois, et en fait, ça permet de souffler, quoi. Ouais, je pense que c'est très important, quitte à ce que ça prenne un peu plus de temps, que le chantier prenne un peu plus de temps, mais au moins d'aller au bout, quoi. Parce que si tu fais ça la tête dans le guidon du début à la fin, c'est un bon moyen pour péter un câble, je pense.
C'est vraiment d'avoir un peu la moralité, d'avoir une gestion un peu du chantier sur le long terme, avoir la vision sur le long terme et de se dire que ok, c'est ok de s'arrêter, quoi.
Ouais, c'est ok si ça prend 2 mois de plus, parce qu'en fait peut-être tirer au bout, quoi.
Ouais, c'est ça. Et avec, si possible, avec la personne avec qui tu as commencé le chantier, quoi.
Voilà.
C'est ok, trop bien. Et ben écoute, ça fait une belle finalité pour cette première partie.
Ouais.
C'était ok. Je te propose de passer à la phase d'action avec les petites questions.
Allons-y.
Concrètes. C'est parti. Nos éditeurs, ils ont un projet, du coup, de maison conteneur. J'ai une question très concrète. Qu'est-ce que tu leur conseilles? Une première question à se poser, une première action très concrète, là, ce que tu pourrais leur partager.
Alors je vais parler de notre exemple, mais parce que a priori, c'est nous que ça concerne. Mais il faut prendre le temps avant de se lancer, de se renseigner, il faut pas partir au hasard, quoi. Nous, c'est un peu ce qu'on avait fait, parce qu'on était très pressés de le faire, et on a laissé beaucoup de choses un peu en suspens en disant, bon, allez, on verra ça plus tard, le jour J. Mais en fait, je pense que c'était un peu une connerie. Il faut tout anticiper. Alors, c'est pas facile, parce que même si t'anticipes tout, il reste toujours des choses que t'as pas prévues. Voilà. Mais bien prendre le temps de préparer le projet en amont. Avant de se lancer tête baissée, à moins d'avoir des capacités techniques hors du commun, peut-être. Ça, les gens sont peut-être pas à l'abri de ça, mais en tout cas nous, pour notre cas où on n'y connaissait absolument rien, si tu te rencardes pas un minimum en avance, ça peut vite être compliqué. On a beaucoup fait de bêtises. qu'on a récupéré évidemment, mais je veux dire, on a perdu beaucoup de temps à faire des conneries qu'on aurait pu éviter. Si avant, on s'était davantage renseigné, quoi.
Et donc ça, parce qu'on en parlait, vous êtes formé pas mal par vous-même, YouTube, bouquins, peut-être même des conseils de proches.
Ouais.
Quand tu dis d'essayer de se rencarder un maximum, est-ce que ça peut peut-être dire d'aller plus voir vers des professionnels ou des acteurs
d'habitat? Les professionnels. Après, les professionnels, avec toutes les connaissances qu'ils ont sur la partie conteneur, précisément, vu que c'est quand même quelque chose qui est un peu atypique, qu'on voit pas beaucoup, y en a beaucoup qui nous ont dit c'est pas sais pas, ou en tout cas qui voulaient pas s'engager, tu vois.
Ouais,
parce que effectivement il y a pas le recul sur le truc, donc et c'est tu t'en rends compte en allant voir d'autres autoconstructeurs de maisons conteneurs, c'est que en fait il y a un type de construction par personne qui a fait sa maison, quoi, quasiment, tu vois. Chacun a sa méthode, quoi, en fonction des conseils qu'ils ont trouvés à droite, à gauche.
Donc, ce serait peut-être de contacter justement ces personnes qui ont monté ce genre de maison pour au moins voir un peu chacune des méthodes et compiler peut-être l'ensemble pour voir la meilleure méthode.
Ah ouais, tout à fait.
Non, mais ça peut être peut-être un premier conseil, effectivement, quoi, de juste avoir la vision de ce que ça représente aussi.
Mais c'est un conseil qui n'est pas facile à mettre en place, parce que en fait, tu sais pas forcément quoi chercher. Quand t'es pas du métier, tu penses avoir fait le tour de la question, et puis en final, tu te rends compte que non, parce que en fait, tu savais pas ce qu'il fallait chercher et où aller choper la réponse. Donc c'est pas facile. C'est pas facile à mettre en place.
Ok. Ouais. Mais ouais, peut-être déjà contacter bah, des gens comme vous, hein, qui avaient construit. Ouais, oui.
Bah, nous, je sais qu'on a beaucoup eu de questions. Enfin, beaucoup de personnes nous ont posé des questions justement là-dessus. Ouais,
ouais, j'imagine.
Ouais.
Ok. Et une autre de mes questions, c'est plus personnelle du coup. Et je sais que ça change un petit peu pour vous actuellement. Dans ta vision, ou dans votre vision avec Adèle du coup, dans le meilleur des mondes, c'est quoi ton bercail idéal, Simon?
Notre bercail idéal, ben là, on est parti sur un autre bercail qui va être beaucoup plus petit. Je ne sais pas si c'est le bercail idéal, mais du coup, là, on part en camion, si c'est à ça que tu voulais faire illusion. Donc, on va avoir une toute petite maison en tôle aussi, mais beaucoup plus petit. Mais je pense que le vrai bercail idéal, moi, si on va au bout de la réflexion, nous, ça serait clairement une roulotte. Une roulotte tirée par des chevaux, ça nous ferait vraiment kiffer. Mais avant d'en arriver à ce point-là extrême, déjà une petite maison, paille-bois, terre, tu vois, qui fasse 50 mètres carrés ou 60, autonome, tu vois, en énergie, en eau, en tout ça, ça serait notre bercail idéal, ça. Autonome et une maison biodégradable, quoi, quelque part.
Ok, qui laisse pas forcément une trace derrière.
Exactement.
Après, tu.
Exactement.
Ok.
Ouais.
Ok. Bah, hâte. Peut-être qu'il y aura d'autres projets du coup qui vont fleurir.
On verra. Ça serait pas mal. C'est l'idée.
Très bien. Trop bien. Ouais. J'ai toujours une petite question aussi. Si tu as des sources pour t'informer, bah du coup, pour aider les auditeurs, j'allais dire téléspectateurs, je me crois déjà à la télé.
Allons-y.
sur les podcasts, la newsletter, chaîne, livre, je sais pas si tu as d'autres.
Bah nous, on a beaucoup, comme je te disais tout à l'heure, bossé avec des bouquins et des chaînes YouTube.
Ouais.
Les chaînes YouTube qui sont souvent en lien avec les comptes Instagram, donc. Mais en gros, on a il y a Pacific Pine Ranch. Donc Pacific comme l'océan Pacifique, et Pine Ranch, c'est P-I-N-E, plus loin ranch, comme un ranch pour les chevaux. C'est Vaillant et Jessica qui font leur maison dans l'Oregon, aux États-Unis, une maison conteneur, une sacrée grosse maison conteneur sur un terrain qui est sublime dans la forêt en bordure d'océan Pacifique du coup. Et c'est cool parce que là ils sont plein dans la construction. Enfin, ils ont commencé il y a un moment. On avait un peu échangé à une époque ensemble. On était même censé aller les voir sur un projet de voyage aux États-Unis, bon, qui a été avorté. Mais bref, on ne désespère pas d'aller les voir un jour. Mais du coup, faut aller les voir ce qu'ils font. C'est hyper chouette. C'est ils travaillent. C'est hyper propre ce qu'ils font. Et ça donne un bel exemple de maison conteneur qui a vraiment de la gueule, quoi.
Ok.
Il y a ça, je t'en ai sorti plein des références, hein, donc
vas-y.
ensuite, il y a une autre chaîne YouTube qui c'est Demos Kratos. Peut-être que tu connais, c'est un gars qui fait à la base, c'est une chaîne qui est plutôt typée politique, écologie, et en fait, il fait sa maison conteneur en autoconstruction aussi.
Ok.
Et du coup, bah, c'est aussi pas mal parce qu'il est en plein dedans, donc ça permet de voir comment ça se fait, quoi. Kratos, c'est avec un K.
Ok, tu viens de préciser.
Voilà. Il y a une chaîne qui est d'enfer aussi. C'est comme un pingouin dans le désert.
J'aime beaucoup le nom.
Ouais. C'était un couple qui ont auto-construit aussi leur petite maison. Bah, du coup, qui s'approche pas mal du bercail idéal dont je parlais un instant, là. Une petite maison, pour le coup, hyper écolo. Et eux, c'est pareil, ils bossent hyper bien, c'est hyper propre, il n'y a rien à dire, et ils sont pas du tout avares en conseil, il y a beaucoup, beaucoup d'explications sur un tas de domaines différents, et c'est vraiment très, très chouette. Mmh. Voilà. Et puis, une dernière chaîne YouTube, c'est L'Archipel.
OK.
Alors là, c'est des formats qui sont un peu plus longs, parce que en général, c'est des vidéos qui durent au moins une heure et demie, voire même deux heures pour certaines.
Okay.
Et là, ils rentrent vraiment dans le détail de, pareil, tout ce qui est maison écolo, et pas que, hein, ça concerne aussi le jardin, et puis la préservation de la planète au sens très large, quoi. Et puis du coup, en bouquin, je t'ai sorti 5 bouquins. Donc, il y a un bouquin qui s'appelle Low Tech, Rustica Edition. Bon, il n'y a pas la vidéo, mais du coup, ça te permet de voir Ok. C'est à l'envers. C'est à l'envers, peut-être.
Non, ça va, je le vois.
Bon, c'est là, dans mon sens. De Clément Chabot et Pierre-Alain Lévesque. Et ça, c'est la bible des technologies low-tech. C'est hyper chouette. C'est un bouquin. C'est une chaîne YouTube. Ils ont un site internet aussi. C'est hyper complet. Il y a plein de choses. C'est vraiment hyper intéressant. Il y a ça. Ensuite, il y a un bouquin qui s'appelle La maison résiliente de Didier Flipaud et Rémi Richard.
Ok.
Voilà. Pour apprendre à faire une belle maison résiliente.
Ok.
Donc là, si je raconte pas de bêtises, ça fait un moment, mais je crois que c'est sur une maison, ça. C'est une maison qu'ils ont refait. Ouais, je crois que c'est ça. Il y a Autoconstruire sa maison en bois autonome.
Ok. Donc comme ça, on a vraiment.
Voilà. De Dominique Guillot aux éditions Une Mère. Et puis, on a encore deux autres. Le Tour de France des maisons écolo de Mathis Rager, Emmanuel Stern et Raphaël Walter aux éditions Alternatives, qui est un super beau bouquin aussi.
Okay.
Avec plein d'exemples de baraques qui sont juste magnifiques, qui font rêver. Et c'est hyper complet parce qu'il y a les coûts, il y a le profil par habitant, les chiffres clés. Enfin, c'est hyper complet et ça survole plein de types de constructions écolo hyper intéressantes.
Okay.
Et puis le dernier, ça c'est plus pour le plaisir, c'est un peu moins technique, mais c'est un bouquin qui s'appelle Réhabiter.
Ouais.
Et que tu
connais. Plus inspirationnel.
Et ouais, là c'est plus niveau déco. Il y a des choses techniques, mais c'est plus de la déco, quoi. Et des idées de belles choses, de belles maisons. Voilà.
Trop bien. Merci beaucoup, parce que franchement, tu as été très généreux en termes de ressources. Donc, c'est trop, trop cool. C'est trop cool. De toute façon, je repartagerai tout ça en descriptif et puis dans les ressources du podcast.
Ouais.
Mais c'est top. Ça permet d'avoir un large panel.
Ouais. Il y a un dernier bouquin, mais... Je peux pas te le montrer là parce qu'on l'a prêté à des copains, mais qui s'appelle Construire sa maison en conteneur.
Ok.
Qui était un peu la référence, qui a été. Nous, on l'avait acheté la première édition. Là, il y a une édition qui est ressortie, qui a été augmentée.
Ok.
Donc c'est là, on l'a pas vu, mais la première, elle était pas mal. Elle survole beaucoup de choses, mais elle rentre pas vraiment dans les détails, mais c'est pas mal. C'était une bonne base de travail. Nous, ça nous a bien servi pour notre maison.
Ok.
Ouais. Bah, je te renverrai la référence. Du coup, les titres exacts, je l'ai plus exactement parce que je t'ai dit, je l'ai prêté.
Ok. Mais je la rajouterai.
Ouais.
Ok. Trop bien. Trop bien. Voilà. Bah, c'est bien, ça conclut bien sur cet épisode pour construire sa maison en conteneur.
Parfait.
Où est-ce qu'on peut te contacter ou te retrouver, du coup, si on des questions?
Sur notre page Instagram, Living in the Style.
Ok.
Ouais. Il y a. Tout simplement. On répond.
Voilà.
Tac,
tac. Voilà. Trop bien. Eh ben, merci beaucoup, Simon. Franchement,
merci,
c'était trop cool. C'est super inspirant. Et je pense que ça inspirera beaucoup de nos auditeurs.
Donc, eh ben, espérons.
Merci pour ce partage.
Faut se lancer, en tout cas. C'est ça qu'il faut retenir.
Ouais.
Ouais.
C'est le mot de la fin. Ce sera ton mot de la fin, selon toi.
Très bien. Vendu.
Ok, parfait. Eh ben, merci beaucoup. Et une très, très belle journée à toi.
Merci à toi aussi.
Et à bientôt dans vos bercailles.
À bientôt.
Si je devais retenir trois choses de cet épisode, ce serait déjà que les conteneurs qui ont passé plus de 20 ans en mer ne sont plus aptes et donc on se sert de ces fameux conteneurs de dernier voyage pour faire une maison. Donc tu peux les trouver facilement sur des sites internet ou alors profite d'aller faire un tour dans les différents ports. Ensuite, il ne faut pas partir au hasard. Essaye d'anticiper un maximum ton chantier. En effet, on a cette impression que d'avoir des conteneurs et donc une structure déjà existante est plus simple. Mais malheureusement, ça veut dire aussi d'autres contraintes à la construction et à l'aménagement. Et parfois, il faut aussi savoir se faire aider, s'entourer d'artisans, de familles, de prendre un peu les conseils qui viennent autour, réussir aussi à prendre des pauses dans le chantier pour savoir couper et atténuer la pression psychologique qui peut y avoir dans ce genre de projet. Si tu as aimé cet épisode, tu peux soutenir notre travail en nous laissant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Et si tu veux faire partie de la belle communauté d'Aubercaille, je t'invite directement à t'inscrire sur notre site www.aubercaille.co pour avoir toutes les dernières informations sur l'habitat éthique. À très vite dans Aubercaille.